Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque.
Bienvenue.
Son épreuve face subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Bertoul Beaurebec.
Mais non, je suis pas mon corps, enfin, je l'incarne, c'est mon habitat, quoi. C'est pas un temple, c'est pas quelque chose de sacré. Par contre, moi qui l'incarne, ma volonté, mon désir d'expérimenter la vie, ça c'est quelque chose d'unique, c'est une trajectoire qui est unique, celle que je vais prendre. Et par là, je pense qu'elle-même, elle peut être considérée comme étant sacrée.
Coucou Bertoul, ça va ?
Ça va et toi ?
Pour ce premier épisode de 2021, année dans laquelle je mets beaucoup, beaucoup d'espoir, je vous gardais au chaud la voix et la pensée de Bertoul Beaurebec, la voix du futur, une femme du futur. On s'est retrouvés toutes les deux dans un nouveau format de La Poudre, un format un peu improvisé, quelque part entre la conversation et l'interview, et qui a eu lieu chez moi, autour d'un thé. Dans cette interview, il y a de la chaleur et des rires. Il y a aussi quelques idées politiques qui vont faire du bien à toutes les méninges. Ah oui, parce qu'en 2021, être abolitionniste, c'est plus possible. Avec Bertoul Beaurebec, on a parlé de corps, de sexe et de sorcellerie. Bertoul Beaurebec, je vais te tutoyer parce qu'on se connaît déjà bien et je pense que je ne vais pas pouvoir feindre le vous pendant une heure d'interview.
Ouais, ce serait bizarre.
Tu es une personne aux multiples visages et fonctions et je vais prendre le temps de les énumérer parce que ce magnifique CV est fait pour être clamé. Tu es l'autrice tout d'abord d'un livre intitulé « Balance ton corps, manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps », donc un manifeste féministe paru récemment aux éditions La Musardine sur lequel nous allons longuement revenir. T'es également artiste performeuse, spécialisée dans l'art-action, à la fois érotique et politique. Tes performances incluent le cracher de feu, le rituel d'aiguille et l'avalée d'épée. Tu t'es produite dans de nombreux festivals et sur des scènes dans le monde entier. Tu es également travailleuse du sexe, comédienne, notamment dans le porno féministe, et enfin, voire surtout, militante afro-féministe. De fait, par ton identité même, tu es à l'intersection. Et tu défends magnifiquement dans ton livre, direct, drôle et accessible, cette notion d'intersectionnalité que d'aucuns cherchent à décrédibiliser ces derniers temps. Donc c'est vraiment chouette que tu sois là aujourd'hui. Alors tu es très jeune, j'arrive toujours pas à croire que tu n'as que 24 ans, c'est ça hein ?
Ouais, 24.
Et pourtant, tu as déjà vécu mille vies. Ce que ton livre, où tu emploies beaucoup la première personne, notamment dans le dernier chapitre, tu donnes vraiment à voir ton point de vue, d'être vraiment à comprendre. Je me pose cette question peut-être un peu simpliste. Est-ce que ta trajectoire est exceptionnelle ou est-ce que tu représentes un pan entier de la société qu'on n'entend jamais ?
Je sais pas. je sais pas. Je sais qu'à l'endroit de mon vécu, de comment je perçois mon vécu, comment je le réfléchis, la façon dont je le politise, oui, c'est peut-être pas commun. Par contre, mon vécu lui-même, je pense qu'on est pas mal. Et ouais, qu'on existe vraiment de façon marginale, mais que je suis pas du tout la seule à avoir ce type de parcours-là à mon âge, ouais.
D'ailleurs, quand tu décris la démarche qui t'a poussé à écrire ce livre, tu parles vraiment d'un manque de représentation. Tu t'es vraiment senti le devoir politique de venir combler un endroit où les récits n'existaient pas.
Ouais, mais c'est aussi à l'endroit de la frustration que j'ai écrit, de me dire mince quoi. J'ai cherché ce bouquin en fait, hein. D'abord avant de l'écrire, je l'ai cherché, mais j'ai trouvé que des autrices et des penseuses qui n'étaient pas françaises, qui n'étaient pas afropéennes, qui n'avaient pas mon profil exact en fait. Et c'est ça vraiment qui m'a fait me dire faut que je l'écrive et faut que faut que je fasse exister ce discours-là, parce qu'en France, il n'existe pas, quoi.
Mmh. Alors, ton livre a reçu un bon accueil, j'ai l'impression. Tu as eu pas mal d'interviews et de parutions. Quelques semaines après sa sortie, quel regard tu portes sur la couverture médiatique ?
Alors, à la fois, c'est encourageant parce que mon objectif en l'écrivant, bien évidemment, c'était pas seulement qu'il touche les personnes qui étaient déjà d'accord avec moi. Donc, le fait d'avoir écumé un peu les médias comme je le fais, je le fais encore d'ailleurs, ça fait qu'il y a plus de chances que des personnes qui ne me connaissaient pas déjà, qui faisaient pas déjà partie de ma petite niche, tombent sur le bouquin et sur mon discours. Par contre, je suis un petit peu... je suis pas forcément très satisfaite par rapport à l'approche de la plupart des médias, dans le sens où souvent, avant de faire une interview, on a tout un plan des sujets qu'on va aborder au sujet du bouquin. Et les interviews même étaient très intéressantes. C'était souvent 1 heure, voire 2 heures ou 3 heures d'entretien avec certains journalistes qui avaient vraiment aimé le livre. Et la résultante, malheureusement, c'était 3 minutes de vidéo ou un article qui parlait que de l'aspect « voilà une pute qui va parler du travail du sexe, regardez, waouh, la pute a écrit un bouquin !» quoi. Et c'était un peu réducteur, j'ai trouvé ça vachement réducteur.
Sensationnaliste un petit peu aussi.
Forcément, parce qu'on sait que dès qu'on soulève le sujet du travail du sexe et de la prostitution dans les médias, ça pousse au débat, il y a des gens qui vont être très intéressés, qui vont être fascinés, qui vont vouloir donner leur avis, qui vont vouloir... Ça attire en fait les gens, mais ça attire pas forcément les gens de la meilleure manière en fait, et ça les pousse pas nécessairement à réfléchir de la meilleure manière encore une fois.
Pourtant il y a une réflexion hyper importante à mener, et d'ailleurs je voulais inscrire ton livre dans tout un contexte, parce qu'il y a vraiment en ce moment, je trouve, un renversement de la narration sur le travail du sexe. On a vu apparaître enfin dans l'espace public les paroles des travailleuses du sexe, un regard situé sur la prostitution. Alors je voulais citer quelques-unes des œuvres qui ont contribué, le livre La Maison de Emma Becker récemment, ou celui de Pauline Verdusier, vilaine fille au pluriel, qui vient de sortir. On peut parler aussi de comptes Instagram comme Par et Pour, du podcast Le Putain de Podcast de Loubna, ou encore La Politique des Putes, un documentaire paru dans Le Flux Intime et Politique, réalisé par Océan, qui nous a fait d'ailleurs nous rencontrer. Qu'est-ce que ça change en fait d'entendre la parole des concernés dans ce débat, car il y a débat sur le travail du sexe?
C'est la moindre des choses, quoi. Enfin, c'est bien, mais j'ai envie de dire, il était temps, quoi. Et oui, on entend la parole des concernés, mais moi, je suis toujours un petit peu piquée. Je vais toujours essayer de regarder dans quel contexte et qu'est-ce qu'on essaye de dire et qu'est-ce qu'on retient aussi de la parole. Moi, ça m'a toujours un peu dérangé, déjà, le fait qu'on puisse créer des débats autour des vies des personnes en se comportant comme si c'était juste quelque chose de théorique, quoi, comme si c'était juste une conversation théorique. Il y a vraiment cette approche-là, beaucoup dans le travail du sexe, on met souvent des concernés, enfin on commence à mettre des concernés avec des abolitionnistes par exemple, ou avec des professeurs, des experts qui sont experts de quoi, je ne sais pas. Et du coup, ça dénature un peu l'essence même de pourquoi on discute de ça. On discute parce qu'il y a des personnes qui sont tuées, il y a des personnes qui sont violées, il y a des personnes qui sont agressées, il y a du harcèlement policier envers une certaine catégorie de personnes, à savoir les travailleuses du sexe. Et en fait, c'est vraiment leur vie dont on parle. C'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose d'évanescent, un sujet où tout le monde peut avoir son avis comme ça, et tout le monde a le droit d'avoir un avis particulier. Et du coup, moi, c'est un peu ça, je regarde un peu tous ces débats-là, un petit peu méfiante, en me disant, mais qu'est-ce que ça va réellement apporter? Est-ce que là, ça va nous permettre d'avoir enfin une parole dans la légifération au sujet de nos vies? Ou est-ce que c'est juste pour faire de l'audimat et puis dire, regardez, on fait les choses bien, on fait parler une travailleuse du sexe, quoi.
Oui, ça fait un peu penser à tous les débats qu'il peut y avoir autour de la PMA ou du mariage entre personnes du même sexe, où on va faire croire c'est un débat théorique et politique, alors que non, on parle de la vie concrète de personnes, et les médias ont pas mal de travail à faire sur ce sujet-là. Alors, tu fais une démonstration limpide dans ton livre, tu glamourises pas le travail du sexe, ça c'est vraiment très important, mais tu démontres deux choses. Déjà qu'il y a des travailleuses du sexe libres, heureuses, et que c'est la pudibonderie de cette société coincée du cul, comme tu l'as décrit, qui censure cette possibilité. Et puis tu montres aussi à quel point l'expression qu'on te renvoie souvent à la figure, elle ne se respecte pas, a un caractère extrêmement stigmatisant en fait. Est-ce que tu peux développer cette idée-là ?
Oui, alors il y a cette volonté de faire croire qu'on a tous le même idéal et la même façon de définir notre dignité, de définir nos besoins et la façon dont on veut exister socialement. Et du coup, c'est par cette espèce de croyance qu'on arrive à dire que les travailleuses du sexe qui choisissent de le faire ne se respectent pas elles-mêmes. Or, qui d'autre que les concernés peuvent dire ce qui fait qu'elles se respectent ou pas, en fait, ce qui va faire que elles vont vivre en adéquation avec leurs idéaux, leurs valeurs, leurs principes ou pas. Personne, techniquement, je veux dire. Et du coup, c'est réellement essayer de projeter cette normalité, cette pudibonderie sur la vie des femmes et leur dire du coup, si vous sortez de ce carcan-là dont on a décidé que c'était la respectabilité, la dignité, vous ne vous respectez pas. Mais personne d'autre que moi peut me le dire et personne d'autre que toi peut te le dire. Et c'était vraiment juste le fil conducteur de cette pensée-là, de dire, mais en fait, demandez-moi. Ouais. Enfin, c'est vraiment, on devrait poser la question. Est-ce qu'en faisant ce travail, et on peut la poser aussi à des banquiers, on peut la poser à des traders, cette même question, est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous respectez vos principes de vie, vos idéaux en faisant ce travail-là? Je pense qu'il faut, encore une fois, sortir de cette infantilisation vraiment des travailleurs du sexe et accepter le fait qu'on est capable de nous penser nous-mêmes et qu'on le fait.
Ouais. D'ailleurs, je trouve qu'il y a énormément de parallèles à faire entre les travailleuses du sexe et les femmes musulmanes qui portent le voile. Je trouve qu'il y a une espèce de même présupposé, déjà d'une espèce de féminité qui serait la bonne féminité qu'on plaque sur leur existence et sur leur vie. Et puis, effectivement, le déni de choisir pour soi-même, quoi.
C'est la même chose. Hein. C'est clairement la même chose. Et puis là, on le voit de plus en plus avec le climat vraiment islamophobe qui décomplexé qui se développe en France. On le voit, en fait, il y a vraiment cette volonté de, encore une fois, de débattre sur la vie, les croyances, en plus, les croyances spirituelles, c'est quelque chose qui relève de l'intime. Ça relève de l'intime, on a le droit de mettre un voile si intimement on en a besoin. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire, je pense, qu'il faut redire,
ça
malheureusement.
Ça devrait être évident. Hein,
ça devrait être évident. Si on a le droit de ne pas mettre de voile, on a le droit d'en mettre un, en fait. Enfin, ça peut pas, on ne peut pas genre, décider qu'une chose est bonne et l'autre non pour toutes. Et c'est exactement la même chose pour les travailleuses du sexe au niveau de la sexualité, là. Mais c'est encore plus vaste comme débat, parce que là, il n'y a pas seulement cette volonté de libération et cette volonté d'être une bonne féministe aussi, d'un autre côté. Et c'est super aliénant. Je pense que beaucoup de travailleuses du sexe rechignent à se présenter comme étant féministes à cause de ça, alors qu'elles le sont, hein, elles sont féministes, mais elles le diront jamais parce qu'elles savent que en fait elles vont devoir se battre pour avoir le droit d'être considérées comme féministes.
Je trouve qu'en posant le parallèle entre ces deux débats qui sont vraiment deux questions qui traversent en permanence la sphère féministe, on voit très bien qu'il y a toujours cette espèce de curseur qu'il faut placer. T'as pas le droit d'être une pute, tu peux pas non plus être trop pudique. À quel endroit notre sexualité, notre pudeur va trouver l'accord et la validation de la société? C'est
une je pense qu'au bout d'un moment, juste il faut s'en foutre, quoi, parce qu'on sait que c'est biaisé, et c'est ça, et c'est aussi, c'est aussi clairement ce que j'essaye de faire transparaître dans le livre. C'est en fait, au bout d'un moment, on a des comptes à rendre qu'à soi-même, à condition bien évidemment que nos actions n'aient pas des répercussions négatives sur les autres et les miennes, enfin. Quand j'étais escorte, il n'y avait pas de répercussions négatives. Au contraire, je vendais littéralement du plaisir, de l'attention. Enfin, je faisais du bien aux gens. Et en ça, je trouvais ce travail très gratifiant. Et c'est quand même dingue de se rendre compte que la réalité de mon métier, mon interprétation à moi, qui est du coup pour moi la plus valable, elle est complètement inversée dans les mœurs sociales. C'est-à-dire que le fait de vendre du plaisir, le fait de vendre des services sexuels, du coup techniquement de faire du bien aux gens, en fait, c'est considéré comme quelque chose qui va être avilissant. Par contre, encore une fois, mettre des gens à la rue, frapper des gens, faire en sorte que les gens soient de plus en plus précaires, c'est des métiers d'élite, quoi. Enfin, je comprends pas.
Mais c'est vraiment important, je trouve, pour comprendre ta position et celle des personnes qui se battent contre l'abolitionnisme, c'est qu'en fait, on parle de travail et c'est le travail en lui-même qui est avilissant. Il y a cette phrase de ton livre que j'ai trouvée vraiment, vraiment importante. La seule différence qui existe entre les prostituées libres et les hôtesses de caisse, c'est la relation qu'elles ont avec leur corps et avec l'argent. Et on peut se poser la question, effectivement, est-ce qu'on demande aux caissières ou aux ouvrières à la chaîne si elles sont vraiment heureuses et si elles sont vraiment consentantes quand elles font ce travail-là? C'est aussi ce qu'on retrouve dans cette expression qui est souvent employée par les abolitionnistes de viol tarifé, que tu déconstruis vraiment bien dans ton livre.
Oui, alors non, clairement, on ne demande pas aux gens, même à la technicienne de surface, est-ce que son travail est épanouissant ? Parce qu'en fait, on a conscience que la plupart des gens, hein, la majorité des gens, font des boulots pour l'argent, en fait, font des boulots pour survivre, parce qu'ils ont besoin d'argent pour se loger, se soigner, se nourrir. Et du coup, bah, elles font ce qu'elles ont à faire, en fait. Et c'est exactement pareil pour les putes. Hein. Enfin, les putes ne vivent pas en dehors du capitalisme. Hein. Il y a vraiment ce cliché qui est réellement infondé, qui veut que les prostituées fassent un travail dit facile. En quoi il est facile, je ne vois vraiment pas. Plus facile qu'un autre, en tout cas, je ne vois pas. Et en plus, pour avoir un train de vie superficiel, s'acheter des sacs, comme si on brassait des 1000 et des 100 comme par magie. Quoi. Donc c'est vraiment, il y a vraiment cette volonté de créer cette espèce d'existence parallèle de la réalité pour les prostituées. Quoi. Les prostituées n'ont pas les mêmes soucis de vie, apparemment. Elles ne doivent pas s'habiller, elles ne doivent pas se loger, elles n'ont pas d'enfants à éduquer, elles ne doivent pas se nourrir, elles ne doivent pas se soigner. Quoi. Mmh. Donc oui, il y a vraiment c'est le rapport au sexe, en fait. Le fait que le sexe, ouais. La sexualité des femmes est considérée comme un dû, en fait, par l'hétéropatriarcat, et qu'on ose capitaliser là-dessus, parce que bah, y a des personnes qui capitalisent sur l'amitié, sur la maternité, sur énormément de choses. Il n'y a pas de raison que ça sorte du schéma capitaliste, en fait.
Ouais.
Et il y a cette rigueur des abolitionnistes, je pense.
Ouais.
Le fait qu'on leur a dit, mais du coup, tu ne peux pas, ta sexualité, ça doit rester dans le cadre du désir, tu ne peux pas vouloir
de
ça.
De la procréation,
c'est
même.
Ça. Bah ouais, mais comme elles sont féministes, elles n'utilisent pas trop cet argument. Elles utilisent plus l'argument du désir, on doit le vouloir. Mais moi, je désire l'argent. J'en ai besoin. C'est pas que j'aime ça, mais c'est que j'en ai besoin dans ce monde pour avoir le confort, juste vivre de façon digne, comme tout le monde, en fait. Mmh. Donc, pour moi, mon désir d'argent, il est aussi valable que mon désir amoureux. Enfin, c'est la même chose, en fait, pour moi. C'est pas les mêmes vécus, c'est pas la même démarche, mais il est aussi valide, quoi. Mmh. Et personne d'autre que moi a le droit de me dire, bah non, c'est pas la même chose. Puis c'est vivre, encore une fois, en dehors des réalités, même dans la sexualité hétérosexuelle dite normale. Enfin, les femmes, elles couchent pas forcément que quand elles ont du désir, hein. Elles couchent pour qu'on les laisse tranquilles, elles couchent pour rendre leur compagnon heureux. Enfin voilà, elles font plein de concessions, mais ça, quand c'est gratuit, il y a pas de souci, quoi. Dès qu'il y a l'argent, dès que d'un coup on sort du schéma marital et qu'on dit en plus, grâce à notre sexualité, on va même pas avoir besoin du protecteur, on va même pas avoir besoin de la personne qui est censée subvenir à nos besoins, à savoir le mec cis, là c'est intolérable.
Alors, dans cette période de crise sanitaire, les travailleuses du sexe et les travailleuses du sexe sont encore plus en danger, encore plus précarisées, encore plus isolées. D'ailleurs, dans ton livre, tu n'éludes pas du tout le fait que certains travailleurs, travailleuses du sexe sont, en l'occurrence, exploités, n'ont pas leurs revenus qui leur reviennent directement. Enfin, tu ne nies pas l'existence d'un esclavage sexuel qui ne te concerne pas parce que tu fais les choses librement et que tes revenus te reviennent à toi. Mais évidemment, qu'il y a aussi énormément de femmes, notamment des femmes en situation illégale, qui sont exploitées. Et en fait, toute cette espèce de stigmatisation globale, cette putophobie, empêche de traiter correctement le problème de celles qui devraient être véritablement aidées et accompagnées. Il y a un syndicat qui s'appelle le syndicat du travail sexuel, le STRAS, qui tire la sonnette d'alarme en permanence, mais personne ne l'écoute. Pourquoi ?
Parce qu'on n'est pas humaine. En fait, on est sorti du spectre de l'humanité soit en étant prostituée, soit en choisissant de se prostituer. On est vraiment la ligne d'humanité, hein. Pour la plupart des gens, les gens n'ont pas de compassion envers les putes. Donc une pute morte vaut mieux qu'une pute vivante. C'est horrible, hein, mais dans l'esprit des gens, même les gens qui se veulent bienveillants par rapport aux putes exploitées, vont pas être touchés de la même manière quand ils entendent qu'une pute qui était exploitée, qui n'était pas, qui pour le coup était une victime de trafic sexuel, a été assassinée. Bah, ils vont se dire, bah voilà, mais de toute façon, quelle vie elle avait quelque part. Et c'est ça, en fait, le vrai problème. Tant qu'on ne sera pas réhumanisé aux yeux des gens, qu'on n'existera pas en tant que personne à part entière dans leurs esprits, nos morts n'auront que très peu d'importance. Et on le voit très bien avec la façon dont le gouvernement, mais vraiment, juste ne prend même pas la peine de nous répondre, quoi. Le stress invective en permanence Marlène Schiappa, tous les représentants du gouvernement, pour leur dire, mais regardez, on meurt, en fait, on compte nos mortes, là, vraiment plus que les féminicides qui touchent pas les travailleurs du sexe, il y en a plus, il y a des violences encore pires, on est découpés, on est poignardés à multiples reprises, enfin, c'est atroce ce qui se passe, en fait, envers les travailleurs du sexe. Le gouvernement ne répond même pas, les membres du gouvernement, enfin, c'est pas un sujet pour eux, on n'est pas des personnes.
Ce qu'on comprend en lisant ton livre, c'est que la stigmatisation contre les TDS fait des ravages chez les TDS, comme tu viens de le dire, mais aussi chez toutes les femmes. Et c'est là que je trouve ton propos extrêmement puissant. Tu parles, par exemple, de cette expression « fils de pute », qui est vraiment la pire expression qu'on puisse... la pire insulte qu'on puisse adresser à une personne. Tu parles aussi du slut-shaming. Est-ce que tu peux expliquer ce mécanisme, en fait, qui fait que, finalement, on est face à un mécanisme de domination patriarcale complètement universel, en fait.
Ouais, mais alors pour le slut-shaming, c'est vraiment très très c'est très ancré dans, je pense, énormément d'injonctions qu'on nous fait depuis toute petite, déjà en nous faisant croire que notre valeur doit vraiment être définie par le regard masculin. Du coup, on doit être valorisé par l'attention que les hommes, enfin les garçons puis les hommes, vont nous donner. Et aussi, du coup, en parallèle, quand on nous dit ça, on nous dit aussi que notre apparence physique est vraiment, pour le coup, quelque chose qui va jouer sur le fait qu'on ait une vie faite de succès ou pas. Donc, quand on est femme, il faut être belle pour être une femme accomplie. On nous apprend ça. Donc, forcément, on nous met en compétition de façon indirecte. Puis, en plus, on nous dit ensuite que c'est naturel. Hein, les filles, elles sont méchantes entre elles. C'est pas vrai. C'est pas naturel. Et ça, forcément, déjà, ces injonctions-là, elles nourrissent le slut-shaming quand on vit dans une société patriarcale où, forcément, une femme libre sexuellement, elle a moins de valeur pour un homme qu'une femme qui se serait préservée. Donc, d'autres femmes qui vont être aliénées par ces injonctions-là vont utiliser le slut-shaming comme une façon de... D'être une pick-me, tu vois, de dire, voilà, regardez-moi, je suis pas comme elle, genre, je suis plus respectable, je couche moins, j'ai plus de valeur, du coup, selon vos standards, donc regardez-moi, quoi. C'est triste, hein, mais c'est pas très très complexe comment ça fonctionne en réalité. Et quand on arrive à déconstruire ces injonctions-là, de dire, mais en fait, je ne suis pas juste mon apparence et ma valeur, je vais la trouver à mes propres yeux, d'un coup, on ressent moins le besoin de slut-shamer d'autres femmes et puis on trouve moins de raison de le faire quelque part. On se dit, mais en fait, elle fait ce qu'elle veut de la même manière que moi, je fais ce que je veux. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes principes sexuellement que je peux la rabaisser. Puis c'est même pas un sujet à rabaisser, en fait.
Mmh. Ouais, puis ce que je trouve aussi que tu démontres bien, c'est cette espèce de voile pudibon coincé du cul qu'on met sur la sexualité. Ça empêche aussi d'avoir une véritable éducation sexuelle. Mmh. Tu démontres, c'est vraiment toi qui me l'as fait réaliser dans ce livre, que finalement, on parle si peu de sexe, notamment aux femmes, que le seul recours qu'on a, c'est la pornographie. Et après, on va jeter l'opprobre sur la pornographie, alors que finalement, c'est le seul endroit où notamment les adolescents et adolescentes peuvent venir en fait s'informer.
Mais le pire, c'est que c'est même pas de l'information. C'est ça, c'est pas de l'information. Et moi, je suis dans le porno et j'adore le porno. Et je peux être très grivoise, il n'y a pas de souci. Ça fait clairement partie de ma personnalité, mais je fais la différence entre la fiction et la réalité. Enfin, je couche pas dans mon intimité de la même manière que je tourne sur des tournages porno, et c'est important de le dire. Enfin, c'est des films, c'est de la fiction, c'est vraiment fictionnel, ça sert à fantasmer, ça sert à alimenter de la masturbation, ça sert à divertir, en fait, comme n'importe quel contenu cinématographique, en fait. Bon, c'est spécialisé, il y a du sexe, et d'un coup, c'est moins valorisé, on considère que c'est pas de l'art, alors que pour moi, ça en est à plein d'endroits, surtout de plus en plus de maisons, de boîtes de production font du travail incroyable, mais du coup, c'est pas le rôle de l'éducation, de la pornographie, d'éduquer sexuellement. Le rôle de la pornographie, déjà, c'est d'être regardé par des adultes. C'est même pas être regardé par des enfants. Aujourd'hui, il y a Internet, donc les enfants peuvent tomber dessus. Donc ça devrait de nouveau faire partie de l'éducation sexuelle d'aujourd'hui, spécifiquement. Mais en réalité, c'est fait pour les adultes. Donc pourquoi demander à l'industrie d'éduquer sexuellement des enfants quand leurs parents, leurs professeurs, la société n'est même pas capable de le faire? Et en plus, c'est pas son rôle. Le rôle de l'industrie pornographique, ça reste une industrie, c'est de faire de l'argent, en fait. C'est pas les enfants qui ont de l'argent à donner à la pornographie.
Alors Bertoul, j'ai adapté pour toi une question rituelle de la poudre. Tu revendiques dans ton livre le statut de salope. Et donc je voulais te demander, Bertoul, est-ce que tu es née salope ou est-ce que tu l'es devenue?
Ah là là, mince, c'est dur. J'ai jamais réfléchi. Je pense que je le suis devenue. Bah oui, c'est évident. Parce que je pense qu'on développe notre sexualité se développe au fur et à mesure qu'on grandit puis vieillit encore, même adulte, elle est toujours mouvante et je pense que je suis devenue assez tôt dans mon adolescence, même si c'était pas conscientisé, je suis complètement devenue.
Et peut-être aussi ce qui s'acquiert, c'est aussi la fierté et la capacité à le revendiquer.
Ouais, ça c'est venu beaucoup plus sur le tard pour le coup, hein. Enfin sur le tard si on peut dire avec l'âge que j'ai, mais par rapport au moment où je pense l'avoir été rétrospectivement parlant et le moment où je l'ai vraiment politisé, j'ai dit bah en fait oui, je le suis et c'est ok, parce que je pense que j'étais très tôt salope dans mon adolescence, mais que j'avais toujours peur bien évidemment de cette insulte, j'avais toujours peur de cette étiquette et parce que c'était complètement péjoratif pour moi, j'avais pas encore déconstruit tout ça. Ouais.
Il y avait encore de la honte en fait.
Bah toujours, je pense, ouais. Enfin, en tout cas, pas une honte sincère, mais une honte à avoir envers les autres, quoi. Mmh. De pas trop mettre ça en avant, parce que bon, bah, c'est ce que je suis, mais c'est pas quelque chose de valorisant, quoi. Mmh.
D'ailleurs, quand t'es quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement cultivé, enfin, on sent que t'as énormément de facultés intellectuelles quand on lit ton bouquin. Et d'ailleurs, t'avais commencé à t'orienter vers des études très sérieuses, très prestigieuses, vers l'histoire de l'art et l'archéologie. Comment t'imaginais ton avenir? Oui, je sais plein de choses sur toi. Comment t'imaginais ton avenir quand t'as commencé ces études-là?
Ah, alors moi, je voulais être conservatrice du patrimoine en musée. Et je m'imaginais mettre en place des scénographies d'exposition, choisir dans des catalogues d'exposition ce que j'allais, quel artiste j'allais décider de mettre en avant, gérer les collections permanentes des musées. Pour moi, c'était vraiment un métier de rêve. Ça l'est encore un peu théoriquement, mais maintenant je sais que dans les faits, l'approche qu'il faut avoir de l'art est beaucoup trop académique en fait et pas assez satisfaisante émotionnellement pour moi. Et moi, ce que j'aime dans l'art, c'est vraiment l'aspect subjectif, interprétatif, et c'est pas nécessairement étudier à la perspective et le contexte historique comme on le faisait, donc ça m'a rapidement fait chier, ouais. Je me suis dit en fait c'est pas pour moi, ce serait pour moi, je pense que c'est pour moi dans un monde parallèle, et que dans un monde parallèle j'ai continué et que maintenant je suis conservatrice du patrimoine ou en tout cas en concours, mais c'est pas pour moi dans cette vie, je pense que j'avais d'autres priorités étant donné mon profil, étant donné le profil assez stigmatisé, que ce soit le côté femme, noire, afroféministe, artiste en plus, et aussi maintenant travail du sexe, j'ai envie d'approcher la vie d'une façon un petit peu plus émotionnelle et politique que quelque chose d'académique, quoi.
Mmh. J'aime bien la façon dont tu décris avec énormément de fluidité comment tu as découvert le travail du sexe. C'est important de rappeler que pour la plupart des militantes, il y a vraiment un continuum dans le travail du sexe. On ne parle pas uniquement des personnes qui sont dans la rue à offrir leurs services comme il peut y avoir dans l'imaginaire collectif. Le simple fait, par exemple, de travailler dans le striptease ou dans les feuillages, c'est peut-être le début de ce continuum. Ouais. Toi, c'est par là que tu es rentrée, tu es montée sur une scène, tu t'es déshabillée quand tu étais étudiante, et tu t'es sentie en fait plus à ta place sur cette scène que tu te sentais à la fac.
Je sais pas si j'ai fait le parallèle. En tout cas, la résultante, oui, ça a été que j'ai arrêté mes études et comme j'étais déjà au théâtre, j'ai continué le théâtre. Et du coup, pendant une période, je faisais que ça. Donc oui, je pense que oui, je me sentais plus à ma place parce que de toute façon, c'était une place pour moi au théâtre et ça n'en était pas une à la fac. Dans ce sens-là. Par contre, peut-être que si j'avais fait d'autres études, j'aurais fait les deux. Mais il se trouve que, ouais, non, à l'endroit de l'histoire de l'art et l'archéologie, je me sentais vraiment pas à ma place. Ouais.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté, la scène ?
Je pense que ça m'a apporté justement ce début de dédramatisation de la saloperie. Faire des brochettes de mots comme ça. Mais ouais, je pense que du coup, ça m'a fait renaître au sein d'une communauté, donc la communauté de la troupe du théâtre en question, où on était toutes pareilles, mais avec énormément de personnages différents, d'apparences différentes, d'esthétiques aussi différentes, de références, d'inspirations différentes, alors qu'on bossait toutes ensemble. Et on était toutes artistes à faire énormément d'autres choses à côté, mais dans ce théâtre-là, on était toutes pareilles, en fait, une famille avec énormément de membres différents, une famille vraiment reconstituée, quoi.
Et donc, hyper inclusive, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ton récit, c'est qu'on sait que le milieu du théâtre, disons, traditionnel, ou même le milieu des comédiennes, est un milieu extrêmement raciste, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de discrimination. Enfin voilà, Alissa Maïgal a vachement bien raconté dans le recueil de témoignages noir, mais pas, n'est pas mon métier. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que dans ce milieu-là, le milieu de l'effeuillage, de la performance, il y a beaucoup plus de diversité et beaucoup plus d'acceptation en fait des identités.
Ouais, c'est nécessaire même. Parce que du coup, les spectateurs qui vont venir, ce qu'on appelait les habitués, du coup, vont tous avoir, c'est majoritairement des hommes. Il y a beaucoup de couples qui venaient. Il y a eu pas mal de gens connus, d'ailleurs, qui venaient. C'était un petit théâtre secret. On a eu des comédiens français assez connus, des personnalités françaises assez connues qui venaient pour découvrir et tout. Mais les habitués venaient souvent pour une membre de la troupe en particulier. Qui était leur favorite, en fait. Et il y avait même vraiment cette espèce de société un peu qui s'était créée, la société des habitués, qui s'était créée en ligne, qui existait sur un forum et qui faisait des critiques de nos shows, qui débattaient, qui faisaient des top 10, des top 3, qui se disputaient entre eux pour dire quelle était la mieux tel jour, quel était le meilleur show, parce qu'on créait nous-mêmes nos petites scénettes, en fait. Et il y avait des scénettes individuelles qu'on créait, on avait tout un répertoire, et il y avait les duos, ce qu'on appelait les duos, les bien où on incarnait des personnages et ça finissait en scène de sexe simulée sur scène. Donc c'était très intéressant de voir la diversité et surtout le fait que la diversité à la fois dans l'apparence mais dans le style soit absolument nécessaire pour faire vivre le théâtre et pour quelque part satisfaire tous les fantasmes possibles et imaginables, quoi.
Ouais, c'est ça qui est fabuleux dans la réflexion autour du porno, c'est-à-dire que, enfin, comme tu le décris très bien, il y a quelque chose qui est vraiment dans une démarche presque d'amour, en fait, de donner aux personnes ce dont elles ont besoin pour éprouver du plaisir, pour éprouver du désir. Il y a finalement pas énormément de métiers où on réfléchit dans cette perspective-là, en fait.
Bah ouais, et puis moi, je pense que c'est quelque chose qui... Voilà, dans l'idéal, moi, j'aimerais que, de toute façon, rien n'ait un rapport à l'argent. Je suis foncièrement anticapitaliste. Je considère que l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est le truc qu'il faut qu'on arrive à détruire. Vraiment, c'est le concept qui fait que nos vies se passent mal pour la plupart du temps, pour une raison ou pour une autre, ou que nos relations sont biaisées. Et le fait que on arrive à malgré tout donner quelque chose qui est vachement, je trouve, qui est vraiment essentiel dans la vie des gens, même si c'est dans un rapport pécunier, c'est parce qu'on en a besoin et c'est parce que les gens ont ce besoin-là et peuvent le trouver en payant. Vaut mieux ça plutôt que ce soit introuvable, sauf de façon complètement idéalisée, que les gens doivent se rencontrer, tomber amoureux, entrer. Enfin, c'est pas possible pour tout le monde.
Ou alors rien ça va être par violence et contrainte, quoi.
C'est ça. Et même si j'aime pas trop le parallèle qu'on fait quand on dit que grâce aux putes, il y a moins de viols, c'est pas vrai. Les violeurs vont pas voir les putes, particulièrement les violeurs vont voir les putes et pas les putes. Et nos clients sont pas des violeurs. Mais oui, moi je pense que dans un monde où on peut tout acheter et dans un monde où il y a des personnes qui vont être en détresse émotionnelle, sexuelle, affective, il n'y a rien d'anormal au fait qu'on puisse acheter des services sexuels. Et c'est même mieux parce qu'au final, on donne quand même une solution à des personnes qui n'en ont pas autrement, quoi. Moi, j'ai énormément de clients. Quand j'y réfléchis, je me dis, mais heureusement, en fait, qu'ils aient accès à des travailleuses du sexe, parce que sinon, ces personnes-là seraient vraiment seules. Et je pense que c'est vraiment horrible quand on y pense de pas avoir de vie affective et sexuelle quand on en veut une, quand on a le sentiment d'en avoir besoin pour être réellement épanoui, pour être vraiment en accord avec son corps et ses sensations, quoi. C'est vraiment, c'est nécessaire.
Je crois que c'est à peu près à la même période que tu découvres la pensée afroféministe à travers les écrits, par exemple, d'Angela Davis ou d'Audre Lorde, dont tu es une grande lectrice. Et j'ai l'impression qu'il y a un espèce d'éveil parallèle, en fait, qui s'est produit, comme si ta conscience politique s'était développée en parallèle avec ton acceptation de ton goût pour l'érotisme, comme tu dis dans ton livre, et une libération des injonctions de la société. Est-ce que c'est la pensée féministe qui t'a aidée à être une salope heureuse ?
Je sais pas. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire que la pensée féministe, au début, m'a fait douter du fait de pouvoir être et féministe et travailleuse du sexe heureuse et qui aime vraiment ça. En fait, j'avais le sentiment que du coup, il y avait vraiment cette dissonance cognitive en moi qui disait que si j'étais pute, je pouvais pas être aussi féministe parce que techniquement, je le pensais à l'époque parce que j'étais pas tombée sur des discours qui contraient ça.
Mais faut les trouver aussi. Hein.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je me disais que techniquement, du coup, je jouais le jeu de l'objectivation des femmes, etc. Et que j'étais aliénée, en fait. Donc, mon impression d'être féministe, c'était qu'une impression. Et en réalité, si j'étais pute, je pouvais pas vraiment être féministe. Donc, c'est pas réellement dans ces écrits que j'ai trouvé ça parce que souvent, les écrits, même des afroféministes, apportent ils portent pas nécessairement sur ces sujets-là, en particulier sur le sujet du travail du sexe. Ils le peuvent, mais c'est souvent pour faire des parallèles historiques aussi sur la misogynie noire, sur les viols de femmes noires par les hommes blancs, etc. Mais au fur et à mesure, en fait, je pense que c'est d'abord introspectivement parlant que je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que j'aime ce que je fais ? Qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que ça apporte aux autres ? Et en quoi c'est incompatible avec le féminisme ? Et j'ai pas trouvé de réponse. Et je me suis dit, mais en fait, ça n'est pas incompatible. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pu saisir dans les écrits aussi, à la fois les alliés qui étaient peut-être des alliés un peu tacites et les personnes qui, pour le coup, étaient abolitionnistes et que j'ai pu moi-même me choisir les penseuses qui correspondaient à ma vision des choses.
Ouais. Pour moi, il y a quand même une valeur qui me semble évidente dans l'afroféminisme, qui vient de là, d'ailleurs, et qu'on retrouve aussi dans le travail du sexe et dans ton livre, c'est la notion de sororité. Tu déconstruis vraiment efficacement le mythe de la rivalité entre les femmes. D'ailleurs, tu as commencé cette interview par là. C'est un mythe qui est accentué chez les travailleuses du sexe, chez les filles de joie. J'aimerais bien, je mets des guillemets dans l'air que les personnes n'entendent pas au micro. Est-ce que ça te dérange que je lise un petit passage de ton livre ? À moins que tu veuilles le lire toi, ça sera encore mieux. T'es ok ?
Ouais.
Génial. Alors attends.
Je vais peut-être bafouiller. La femme n'est pas une louve pour la femme. Beaucoup pensent à tort que les femmes sont des ennemis naturels. La femme serait une louve pour la femme. Si l'idée que les femmes se sentent en permanence menacées par leurs consœurs est largement diffusée, il existe un cliché spécifique aux danseuses de cabaret et effeuilleuses véhiculées. La plupart du temps, par des personnes, hommes et femmes, qui n'ont jamais connu ces milieux de l'intérieur. Les stripteaseuses sont réputées de se crêper le chignon dans les loges, de se battre pour les clients et de se faire quotidiennement des coups bas au travail. Selon mon expérience et celle de nombre de mes amies danseuses, je peux attester que c'est faux. C'est même plutôt l'inverse. Il existe une solidarité propre aux salopes dont beaucoup de femmes respectables, entre guillemets, devraient s'inspirer. Qu'il s'agisse des plus petites attentions comme de vérifier discrètement si le fil du tampon d'une autre danseuse n'est pas visible à travers sa lingerie, jusqu'à intervenir verbalement ou physiquement lorsqu'une collègue est agressée par un client, ou parfois même un membre du staff de l'établissement. L'effet du témoin n'existe pas entre femmes de petite vertu. On devine que ce cliché existe sûrement pour contribuer à dévaloriser encore plus les femmes qui exercent ces métiers. Il me semble que les salopes ont compris quelque chose de primordial. Lorsqu'on évolue au sein d'une société patriarcale et sexiste et qu'on accepte qu'une femme soit humiliée ou agressée sans réagir, on valide les comportements discriminatoires et violents dont nous serons toutes victimes un jour ou l'autre. Défendre l'intégrité morale et physique d'une femme, c'est protéger l'humanité de toutes.
Ouais, c'est vachement bien ce passage. Je trouve que ce qui te caractérise aussi bien dans le quotidien que dans ce livre, c'est ta bienveillance. C'est vraiment, je trouve, un mot qui te définit bien. Dans ton livre, on trouve cette bienveillance, y compris vis-à-vis des clients que tu décris, notamment dans la troisième partie, que je trouve assez incroyable hein, sur le plan littéraire, je dois te dire. T'as aussi une grande douceur quand tu parles de toi, quand tu parles de ton corps. Et ça peut paraître contradictoire avec l'imagerie, notamment de la sexualité BDSM dont tu te revendiques. Comment on résout cette contradiction intellectuellement ?
On apprend à juste valider son ressenti, je pense. C'est bien de pouvoir expliquer intellectuellement des choses quand y a besoin de les expliquer aux autres pour que les autres comprennent. Mais à mon propre endroit, je ressens pas le besoin d'expliquer certaines choses.
Bah c'est juste que pour les gens comprennent, parce que c'est vrai que pour t'avoir lu, et puis pour avoir aussi, ces derniers temps, fréquenté beaucoup plus de personnes qui pratiquent le sexe BDSM, j'ai vraiment moi-même déconstruit énormément de préjugés que je pouvais avoir sur cette sexualité. Oui. Et en fait, au contraire, il n'y a pas de sexualité où on tient plus compte, en fait, du ressenti, du consentement. Ouais. Et c'est ça que j'aurais voulu que t'expliques pour les auditeurs et auditrices.
Les règles un petit peu communes au BDSM, elles reposent sur une notion fondamentale qui est la communication et le consentement. Donc le consentement éclairé, c'est-à-dire que quand on joue à se faire mal, c'est le cas pour la plupart des disciplines BDSM. Du coup, il faut faire extrêmement attention aux limites de l'autre et aux capacités aussi de l'autre. Et il faut être aussi extrêmement à l'écoute de soi pour pas soi-même dépasser ses limites et donner des indications qui vont faire que on pourra pas, ça nous amusera plus, ce sera plus un jeu et ça nous fera réellement mal dans le sens où psychologiquement il n'y aura pas cette satisfaction érotique. Donc du coup la notion de consentement elle est centrale Et si jamais elle n'est pas respectée, d'un coup, on bascule et c'est plus du BDSM. Donc, il y a vraiment ce rapport-là au consentement qui est vraiment, encore une fois, essentiel au BDSM, qui fait que, de toute façon, même si, vu de l'extérieur, ça peut paraître impressionnant et on a le sentiment que les gens sont dérangés, il y a vraiment ce rapport de bienveillance, il y a vraiment ce rapport d'écoute et qui fait que ben, les gens s'amusent, en fait, et que ça devient du BDSM grâce à ça. Et en parallèle avec le sexe vanille, comme il n'y a pas nécessairement de communication...
Qui est l'opposé, en fait.
Ouais, le sexe dit... normal, j'aime pas dire ça, mais en gros vanille dans le sens où il n'y a pas le rapport à la douleur, il y a vraiment un manque de communication qui est valorisé, qui est romantisé beaucoup dans la romance, notamment dans les romances notamment hétérosexuelles. On met en valeur le fait qu'on se comprend sans se parler, ouais. Machin, tous ces trucs là qui n'existent pas, faut arrêter. Et on a aussi le sentiment que parler pendant, c'est gâcher le désir, c'est gâcher... Alors que dire très clairement, ça j'aime bien, ça j'aime pas, continue, arrête... Enfin, c'est aussi donner des indications claires sur le fait que ça se passe bien ou pas. Et c'est important, en fait.
Ouais.
Et pour moi, en plus, ça rajoute encore plus au désir parce qu'on sent qu'on est réellement dans un moment de complicité, d'échange et que, bah, on est à l'aise, en fait. On peut s'exprimer, on peut dire des choses. C'est super important verbalement de pouvoir exprimer les choses parce que ça marque aussi la différence entre toi et moi, quoi. Ok, on partage un moment, mais je suis quand même moi, t'es quand même toi. On rentre pas dans une espèce de fusion que je considère un peu malsaine. Ouais,
ouais, waouh, t'es en train de mettre le doigt sur un truc, je pense, hyper important. Et enfin, je pense qu'il y a énormément de sexualités de femmes adultes supposément épanouies qui sont complètement paralysées en fait par cette espèce d'injonction à les choses doivent aller de soi, et puis cette espèce de truc. Le désir, ça se ressent dans le corps, t'as pas besoin de le formuler et tout. Et en fait, ça empêche complètement de vivre.
Bah ouais, et puis surtout, encore une fois, on est des personnes différentes, hein. On partage pas le même corps. Enfin, les gens ne peuvent pas lire dans nos pensées, et même si on aimerait que ce soit le cas, même si on a le sentiment qu'on vit une relation ultra fusionnelle, je pense qu'il faut être responsable de soi et de l'autre et d'être capable de rationaliser certaines choses, quoi.
Ouais, ouais, c'est hyper important. Je pense que ce qui fait se rejoindre tout ce que tu fais, des performances au film, en passant par ton ancien travail d'escorte, c'est ton rapport au corps. Et tu dis, alors je vais encore mettre le doigt sur une contradiction que moi j'ai réussi à comprendre, mais j'aimerais bien que tu la déconstruises pour les autres. Tu dis, ton corps n'est pas un temple. Ça, je pense que c'est une phrase extrêmement importante. Et en fait, c'est tout l'inverse que de dire que tu ne respectes pas ton corps ou que tu n'en as rien à foutre de ce qui arrive à ton corps.
Ouais, non, ça ne veut pas du tout dire ça. Mais oui, c'est marrant, c'est un truc dont on me parle beaucoup pendant cette promo-là. De dire, mais comment vous pouvez dire que vous n'êtes pas votre corps? Enfin, moi, je suis mon corps et tout. Mais non, je ne suis pas mon corps. Enfin, je l'incarne. C'est mon habitat, quoi. Et ça ne peut pas être un temple. Enfin... Il va crever, il va se décomposer, c'est une machine organique, il y a des viscères, il est fait de sang, il est fait de trucs, voilà, hein, il est fait de trucs vraiment typiquement matériels, organiques, c'est pas un temple, c'est pas quelque chose de sacré. Par contre, moi qui l'incarne, ma volonté, mon désir d'expérimenter la vie, ça c'est quelque chose d'unique, c'est une trajectoire qui est unique, celle que je vais prendre, et par là, je pense qu'elle-même, elle peut être considérée comme étant sacrée. Puis surtout le mystère qui entoure notre conscience, notre âme, de quoi est-ce qu'elle est constituée, ça c'est quelque chose... qu'on n'a toujours pas résolu, hein, de façon scientifique, dans les sciences dures en tout cas. Moi, à mon endroit, j'ai le sentiment d'avoir résolu ça. Mais, mais oui, non, mon corps n'est pas un temple, tout simplement parce qu'il me sert, encore une fois, d'intermédiaire entre moi et les autres. Il me sert aussi à expérimenter la vie. Il peut se remettre des chocs de la vie. Il peut être modifié et toujours être fonctionnel d'une autre manière. Un temple, c'est quelque chose qui est fini, c'est quelque chose qui va être polissé, qui va être vraiment quelque part regardé avec une distance qui peut être un peu flippante quand on fait un parallèle avec le corps. Moi, je veux pas que la vie prenne de la distance avec moi. J'ai pas envie de prendre de la distance avec les corps des autres, quoi. C'est pas ça pour moi vivre.
Alors, dans tes performances, tu t'infliges de la douleur. Je me demandais dans quelle mesure la douleur était politique.
C'est politique dans le sens où je pense que la plupart de mes performances où je fais des rituels de douleur, les femmes qui vont regarder ça vont prendre conscience d'une force, d'une potentielle force dont elles n'avaient pas conscience avant. Elles vont être inspirées par ma résilience, par le fait que je puisse transcender cette douleur et l'utiliser de ma propre manière, en fait, quelque part la cristalliser pour en faire quelque chose d'autre que quelque chose dont je vais souffrir. Et ça fait un parallèle, je pense, avec les difficultés dans la vie, les douleurs physiques qu'on peut ressentir en étant femme et la façon dont on va les interpréter et les processer. Donc ça, c'est politique, je pense, dans ce sens-là, de se dire, en fait, on n'est pas obligé de souffrir de ces douleurs-là. On peut aussi en faire autre chose. On peut aussi décider que ça fait partie de comment on va incarner nos corps et que c'est OK. Et ensuite, décider peut-être de prendre de la distance si on a besoin, ou alors même de transformer cette douleur pour en faire une sorte de carburant ou pour changer d'état. Moi, en l'occurrence, dans les performances, j'entre dans des états de transe et c'est à travers la douleur, du coup, et l'acceptation de la douleur que je vais pouvoir changer d'état. Et c'est ça que je recherche. En me montrant aux autres, mon seul but, c'est d'inspirer, finalement. C'est pas... Voilà, c'est très simple.
Ouais, mais en fait, c'est très simple, mais je pense qu'il y a peu de... Enfin, j'ai malheureusement pas eu la chance encore de te voir faire une performance dans la vraie vie, mais j'ai regardé plusieurs vidéos, notamment sur ton site, qui est hyper bien fait.
Merci.
Et c'est vrai qu'en fait, tu modifies ton propre état, mais tu modifies de fait l'expérience de la personne qui te regarde. Enfin, il y a vraiment un ressenti dans le corps. On a les fesses qui serrent, on se crispe, on a envie de se cacher les yeux.
C'est bien.
Non, mais voilà, tu sais que tu suscites ça. Il n'y a personne qui peut regarder ce que tu fais en restant complètement impassible et mou sur sa chaise.
Il y a des personnes qui pleurent, il y a des personnes qui s'évanouissent. Mais c'est bien.
Ce
que je recherche, c'est faire le pont entre... entre mes actions, mon ressenti et le ressenti des autres personnes qui vont être témoins. Dans mes performances, comme elles s'inscrivent dans la réaction, les personnes qui vont être spectatrices et spectateurs vont être acteurs aussi d'une manière ou d'une autre. Elles ne savent pas à l'avance comment. Et du coup, ça crée vraiment une ouverture énergétique de comment moi je vais vivre les choses et qu'est-ce que je vais susciter chez les autres. Le but, c'est de faire ressentir des trucs. Si tu ressens des trucs, c'est cool.
Ouais,
après, tu peux pleurer, tu peux pas pouvoir voir, tu peux avoir peur, tu peux t'évanouir. L'objectif, c'est de faire un pont entre justement ces corps-là, de dépasser la différence vraiment corporelle qui nous délimite, en fait, et de nous connecter, quoi.
T'as une façon très particulière de mettre vraiment de la politique dans absolument tout ce que tu fais. Et dans tes performances, il y en a une qui s'appelle « Sujet-objet », où tu te couds littéralement la bouche avec un fil et une aiguille pour parler de la silenciation des travailleuses du sexe. Il y en a une autre que j'ai pu voir en vidéo, qui est une allusion au mythe de Lilith. J'aimerais que tu la décrives, si tu veux bien, de façon visuelle et concrète. Qu'est-ce qui se passe pendant cette performance ? Qu'est-ce que tu fais ?
La chute de Lilith, c'est une performance qui raconte le moment où Lilith a été déchue, où elle a été expulsée du Jardin d'Éden par son père, du coup, par le Créateur, parce qu'elle a refusé de se soumettre à Adam, qui est la figure du premier homme biblique, et Lilith, la première femme biblique, du coup. Et
elle a refusé de s'exister avant Ève.
Exactement. Bah, c'est un peu, comme je dis dans le bouquin, le prototype de la femme au foyer raté, quoi. Et je pense que Dieu ne s'attendait pas. Il se disait, bon, bah, j'ai fait une femme de la même façon que j'ai fait l'homme, et puis ils vont se débrouiller, et Lilith a fait ok, mais on va se débrouiller comme j'ai envie. Et Adam était là, papa. Et du coup, ça s'est mal passé. Donc, elle a été expulsée et elle s'est retrouvée dans le désert, elle s'est retrouvée dans les niveaux supérieurs de la création, dans les niveaux inférieurs de la création, et elle s'est retrouvée exilée en fait. Et la chute de Lilith, ça raconte cette incompréhension et surtout la rancune que Lilith va développer envers le Créateur. Et elle lui dit voilà, tu m'as rejeté et ce n'est plus chez moi, mais maintenant j'ai une autre famille, à savoir tous les rebuts finalement de la création, les démons. Elle devient leur maman et elle s'érige réellement en figure d'opposition et de menace envers le Créateur, à dire moi je suis celle qui a tué le père et je suis celle maintenant qui s'est créée toute seule. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait dans la figure de Lilith, le fait d'être déchue, mais de se créer un autre monde, un monde dans lequel elle avait une place centrale et un monde dans lequel ses règles étaient les seules valables. Et c'est quelque chose d'extrêmement empouvoirant. Je pense que c'est une figure qui est très empouvoirante, qui est reprise beaucoup comme la figure de Jézabel par énormément de collectifs féministes. Et ça donne aussi de la force à la colère, je pense. Ça donne aussi une légitimité à la colère. C'est encore une fois la colère qui est souvent dévalorisée chez les femmes, qui est souvent considérée comme hystérique. Elle peut être très froide, elle peut être très réfléchie, elle peut être très tactique, la colère. Et elle peut mener très très loin aussi. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en scène avec Lilith. Donc dans la performance, il y a tout le process de réalisation de Lilith. Donc il y a le moment où elle est déchue, elle est un peu perdue, elle se demande pourquoi, elle est dans un moment d'introspective à se dire mais qu'est-ce que j'ai pu faire, et puis elle rentre dans la souffrance par ce moment-là, et en souffrant du coup elle renaît de sa souffrance. Donc il y a tout le process des aiguilles, il y a le process aussi de la vallée d'épée, et
il y a une danse en... enfin je voudrais vraiment que tu décrives pour que les gens imaginent ce qui se passe sur la scène quand tu
je me pose des aiguilles, donc je me pose des aiguilles notamment sur le visage, j'en pose pas mal sur le visage, dans le cou, sur la poitrine. Et avec les aiguilles posées, j'avale mon épée. Quand j'avale mon épée, du coup, j'ai aussi les aiguilles sur le visage qui rend la chose un petit peu plus compliquée, notamment les aiguilles qui traversent mes joues. Et puis, au moment où je retire l'épée, ça marque quelque part le moment de basculement, où il se dit, mais en fait, le pouvoir que je recherchais, le pouvoir que je pensais avoir perdu en étant déchu, je le retrouve en moi à travers le fait que je survive, en fait, à toute cette douleur-là qui est accumulée par le rejet, en fait, hein, par le fait que je sois considérée comme pas assez bien ou comme moindre. Et le moment où je retire les aiguilles, c'est le moment où elle se défait aussi de toute son intériorité qui avait été faite par le père, donc son sang. Et c'est le moment où elle devient la maman de tous les démons. Et sa propre créatrice.
Je voudrais maintenant qu'on prenne un moment pour parler de l'industrie pornographique. Toi, tu as travaillé un peu au tout début dans le porno mainstream. Tu es notamment passé, j'ai découvert, chez Jackie et Michel. Et puis, tu as vite compris que ça n'allait pas le faire. Tu as commencé à travailler avec des réalisatrices porno féministes comme Erika Lust ou Anouchka. J'ai regardé un de tes derniers films, Vivante,
ouais,
qui raconte une histoire d'amour entre deux femmes, qui parle de handicap, qui parle aussi du travail d'assistante sexuelle. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est un film pornographique, il y a énormément d'érotisme, enfin ça suscite vraiment des sensations physiques, comme tout bon film porno se doit de le faire. Mais c'est un message hyper politique, notamment contre le validisme, et ça fait du bien parce que s'il y a bien un combat politique qui est très largement oublié de toute la production artistique contemporaine, c'est le validisme. D'ailleurs, on y voit, je voulais la mentionner, une des rares actrices porno handicapées qui s'appelle Marie-Léa Kinka. Est-ce qu'il fallait que le féminisme s'en mêle pour que le porno puisse devenir politique?
Bah oui. Bah oui, ça c'est sûr. C'est sûr, et puis encore une fois, je pense que c'est un continuum. C'est-à-dire qu'en ayant un porno aussi gras et aussi masturbatoire que le porno dit mainstream actuellement, c'était obligatoire qu'il y ait un manque, il y ait un rapport de manque, parce que on a beau dire ce qu'on veut, les femmes comme les hommes regardent du porno, et forcément, c'est pas un porno qui nous parle, parce que c'est pas un porno qui nous est adressé dans la façon même dont il est fait. Et je le sais parce que j'en ai fait beaucoup. Et du coup, moi-même, j'étais très critique, un peu naïvement d'ailleurs, quand je bossais avec ces boîtes de production dites mainstream. Et on me disait, mais c'est pas les femmes qu'on vise, en fait. Donc, ça, c'est normal qu'on fasse pas les choses dans ce sens-là que tu mets en avant. Je suis là, mais pourquoi? Je regarde du porno. Pourquoi on pourrait pas faire ça? Et bien évidemment, je pense que le féminisme s'en mêle parce que y a un manque, encore une fois. Et qu'il faut que le porno soit féministe pour toucher, je pense, à la sensibilité des féministes quand elles regardent du porno, et toucher à leur désir, toucher à leurs fantasmes. Ça, c'est pas les mêmes fantasmes qu'on développe hors et dans le féminisme, je pense.
Mais ça va même au-delà, je trouve, de la simple volonté d'émanciper. Enfin, par exemple, sortir d'un schéma hyper hétéronormé, ça semble vraiment évident, quoi, dans une démarche féministe. Mais là, voilà, il y a le combat validiste. Il y a aussi énormément de messages antiracistes.
Féministe, ça.
Mais évidemment, voilà, on est dans l'intersectionnalité, quoi. Mais je trouve ça extraordinaire, en fait. Enfin, moi, j'ai vraiment découvert, je savais que ça existait, puis j'avais interviewé Ovidie et tout. Mais pour toi, je me suis dit, allez, je vais acheter un film porno féministe. Ça fait partie aussi, c'est aussi un acte politique. Et j'ai été vraiment incroyablement surprise, quoi, par le soin qui est apporté à ce message politique-là, quoi. C'est pas une simple représentation un peu superficielle du handicap dans un film.
Oui.
C'est vraiment...
Anouchka a fait ses recherches après. Hein.
C'est ça.
Elle a fait ses recherches. Et puis, même dans le film, à d'autres rôles, il y a Cybèle, l'Espérance, qui, elle, est accompagnatrice sexuelle. Et je pense qu'elle a pas mal aiguillé Anouchka en amont, en fait, de la création du film, pour lui dire les choses qui étaient réalistes, les choses qui se passaient réellement dans ce travail-là, quoi.
Ah, les meufs qui font bien le job, comme d'hab, quoi.
Ouais. Hein.
Bon, le porno, c'est aussi un milieu qui est réputé très raciste.
Ouais.
Est-ce
quelque chose que tu as pu expérimenter, bah,
oui. Oui, mais c'est une question qu'on me pose beaucoup et c'est une question qui, encore une fois, je pense qu'il contribue un peu à faire de l'industrie du porno une particularité, comme pour dans le travail du sexe en règle générale, vis-à-vis du traitement des femmes. Enfin, quand on est femme noire et qu'on est secrétaire, en fait, on fait face à de la misogynie noire aussi. Et je pense que du coup, le porno n'est pas exempt, simplement parce que le porno existe dans notre réalité.
Dans ce cadre-là, quoi. Ouais. Ouais. D'ailleurs, les phrases, enfin, j'ai vu une interview où tu racontais un peu les phrases que t'entendais, genre tu es belle pour une noire, etc. Mmh, mmh. Et en fait, c'est des propos que t'entends partout. Voilà, hors des plateaux aussi. Genre, quoi.
J'ai commencé à entendre ça, j'étais adolescente, donc enfin, voilà, c'est des phrases qu'on entend partout et c'est des phrases en tant que femme noire afro-européenne, je pense que, bah, on peut aussi s'en rendre compte en regardant le documentaire Ouvrir la voie d'Amandine, que bah oui, c'est des choses qui sont vraiment symptomatiques en fait de ce que ça signifie du vécu des femmes noires dans les pays européens, quoi.
Ouais, puisqu'on comprend vraiment en fait en t'écoutant et en te lisant, et d'ailleurs en lisant, en écoutant aussi les témoignages d'Ouvrir la voie que tu viens de mentionner, d'Amandine Gay, c'est que finalement on a tendance à vouloir rejeter le racisme sur des endroits très spécifiques alors que c'est, y a rien de plus structurel et il y a rien de plus également réparti en fait.
Ouais, c'est clair, on est à l'abri nulle part en vrai. C'est triste, mais et je trouve ça un peu hypocrite de pointer le porno et de dire regardez quand même, le porno traite les femmes, mais. Regardez comment la société traite les femmes, en fait. Hein. Le porno, il ne va pas exister comme par magie. Mais encore une fois, comme ça touche au sexe, on a des jugements de valeur beaucoup plus hypocrites, beaucoup moins critiques, en fait, de façon réellement intellectuelle, en fait, et globale. On se dit, oh là là, le sexe... On a tendance à penser que le sexe, c'est un acte violent pour les femmes, quoi. Alors que, ben, non, c'est pas violent, c'est pas avilissant, quoi.
Ouais. Au contraire, il faudrait éduquer les personnes à réaliser que non, et ça aiderait certainement.
Je pense, ouais.
Ouais. Quand on te suit un peu sur Instagram et qu'on te connaît un peu, d'ailleurs tu as fait allusion tout à l'heure pendant notre interview, on comprend que tu as une grande spiritualité. Quelle est ta religion, si tu en as une?
Je suis assez secrète sur ça. Ma religion, c'est un mélange de pas mal de croyances, de pratiques. Et je suis une voix de sorcière. Après, je rentre pas trop dans les détails. Enfin, je pourrais rentrer dans les détails avec toi hors micro.
D'accord, il n'y a pas de souci. Mais j'avais simplement envie que tu fasses allusion à la façon dont la spiritualité... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me blesse énormément, en fait. La façon dont la société a tendance à stigmatiser toute croyance, à vouloir absolument matérialiser tout et à brandir en fait la laïcité, je ne veux pas employer ce mot qui m'épuise,
ouais.
Mais il faut bien le mentionner là pour finalement rejeter dans le domaine de l'irrationnel tout ce qui relèverait d'une croyance spirituelle et tout ce qui sort du monothéisme. Le monothéisme se retrouve aussi dans l'eau du bain quand on sait,
oui, certaines religions monothéistes, ouais.
Mais je trouve ça intéressant de voir qu'on peut parfaitement imaginer une articulation en fait entre une pratique spirituelle et une réflexion politique.
Ah bah oui,
et démocratique.
Je pense que j'ai cette réflexion politique et surtout j'ai la force d'avoir cette réflexion politique et d'agir dessus grâce à la spiritualité que j'entretiens et qui me drive, hein, réellement. Il y a des enjeux pour moi qui sont beaucoup plus importants que les enjeux de ce monde qu'on partage, que j'appelle le monde mondain en fait, hein, le monde matériel. Et du coup, ça aide à prendre de la distance. Ça aide à prendre de la distance et surtout à pouvoir regarder parfois avec un regard extérieur et poser des choses qui nous concernent directement. Parce que je sais que je joue selon des règles auxquelles j'ai pas contribué, sur lesquelles j'ai pas eu mon mot à dire. Et rien que pour ça, j'accorde pas trop de valeur à l'issue du jeu.
et la ritualisation aussi, je trouve que c'est quelque chose qui peut aider en termes... je sais pas, ne serait-ce que de santé mentale ou... je sais pas, c'est quelque chose de moi que j'ai découvert il y a quelques années et ça m'aide énormément en fait de savoir que tu peux
pratiquer quelques gestes ou répéter un mantra pour finalement complètement modifier en fait ton
approche. C'est ce que les gens font, même dans une dimension plus exotérique, c'est ce que les gens font. Les gens ont besoin de rituels pour se retrouver dans le bazar de l'existence, en fait, pour mettre de l'ordre. On ritualise tout et n'importe quoi, on ritualise le temps aussi. Le temps, c'est un construct qui est complètement illusoire. Hein. Le fait de créer des journées de 24 heures, des heures de 60 minutes, c'est pour se retrouver. Et c'est des façons ritualisées d'exister, en fait. Et après, oui, il y a des rituels qui vont prendre une dimension plus ésotérique et qui, je pense, peuvent être salvateurs pour des personnes qui ont une conscience, en tout cas, une conscience éthérée d'elles-mêmes, mais qui n'ont pas nécessairement... de choses concrètes, de croyances concrètes sur lesquelles se baser pour les faire. Je pense qu'à son propre endroit, on peut trouver des rituels et qui vont prendre une dimension magique de toute façon parce qu'on les nourrit par notre croyance.
Ouais. Et on peut s'inventer sa propre spiritualité et picorer.
Je pense qu'il faut aussi avoir énormément de connaissances déjà. Être curieux ou curieuse sur la logique que toutes les spiritualités et toutes les religions, même monothéistes, partagent entre elles. Parce qu'il y a vraiment une logique, en fait. Qu'on croive en Allah, en Yahvé ou au Dieu chrétien, en fait, c'est les mêmes énergies. Il y a le même sens dans toutes les croyances monothéistes. C'est juste des directions différentes que ces croyances-là prennent, mais il y a le même sens, il y a la même façon de valoriser ce qui est bien, ce qui est mal. Et je pense qu'il convient juste d'avoir sa propre interprétation de toutes ces énergies-là, de comment on veut exister avec elles et de ce qu'est-ce qu'on recherche, en fait, en interagissant avec elles.
Mmh. Berthoul, est-ce que tu as accès à ta chambre à toi ?
Oui. Ouais. Depuis toujours, ouais. J'ai jamais vraiment réfléchi, j'ai jamais vraiment réalisé que c'était ça, ma chambre à moi, parce que j'écoute la poudre beaucoup. Et j'ai réalisé en écoutant la poudre, quand tu posais cette question, je me suis dit, mais oui, moi j'en ai une, et j'en ai une depuis toujours. Elle est dans ma tête.
C'est la seule qui compte.
Et dans mon esprit. J'ai mon palais mental et je me réfugie dedans pendant mes méditations déjà tous les jours, ça c'est sûr. Mais dans les moments où j'ai juste besoin de réfléchir sur ce qui se passe à l'extérieur ou de comprendre en fait ce qui se passe à l'extérieur. Des fois, il se passe des choses, mais trop vite. Moi, j'ai tendance à être vachement dans ma tête, dans mon intériorité, à processer les choses avant de vouloir y réagir. Et parfois, la vie, elle laisse pas forcément le temps de ça. Donc, elle est dans ma tête.
Ça, en écrivant cette question, parce que j'ai tellement... j'aime mon travail de journaliste et j'ai voulu le faire jusqu'au bout. Et je pense que je suis la seule journaliste à t'avoir interviewé, à s'être abonnée à ton OnlyFans.
Ouh.
Et donc le OnlyFans, peut-être pour expliquer, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un site internet où tu peux, en échange d'un abonnement mensuel, publier des photos et des vidéos qui sont uniquement réservées aux personnes qui ont payé. Alors peut-être que j'ai une vision un peu naïve des choses, mais j'ai eu le sentiment que c'était un bon outil quand même pour les TDS, parce que ça permet de générer des revenus de façon complètement autonome, sans passer par une personne ou voilà. Et puis surtout, je trouve qu'il y a... Dans les images que tu postes, je trouve qu'il y a une grande sécurité, en fait, parce que tu... Je sais pas, justement, t'es dans ta chambre, beaucoup, donc il y a quelque chose de très intime. Ouais. T'es seule, donc t'es vraiment dans le pur consentement vis-à-vis de toi-même. Surtout, ce que j'ai trouvé... hyper, hyper drôle, c'est que tu vas poster une vidéo très érotique et puis tu vas dire allez manifester avec Assa Traoré le 2 juin, n'oubliez pas de relire Angela Davis, donner à cette caisse de grévistes. Enfin, tu accompagnes toujours tes vidéos d'un message politique. Et tu rappelles aussi à l'ordre les personnes qui te suivent, genre alors, petit rappel, je ne pas adresser de pronoms possessifs en vous adressant à moi, je ne suis pas ton chéri, ta belle, merci. Bref, mais je me suis demandé si c'était pas
comme ça, mais...
si c'était pas aussi hyper important dans le travail du sexe d'avoir sa chambre à soi, aussi bien mentalement comme tu l'as décrit, mais aussi matériellement avec des espaces comme celui-là.
Ah bah dans le travail du sexe, je pense que c'est un avantage, c'est sûr, c'est un privilège hein, clairement. Et puis OnlyFans déjà, ça s'adresse à des travailleurs du sexe qui vont être un endroit de privilège par rapport à d'autres, c'est sûr, parce que déjà faut avoir une connexion internet, faut avoir un compte bancaire, faut avoir un smartphone ou un ordinateur. C'est le minimum. minimum. Ensuite, il vaut mieux avoir un trépied, il vaut mieux avoir un pivot aussi pour bien faire les choses. Enfin, ça s'ajoute, voilà, pour bien faire les choses. Et du coup, ça touche qu'une catégorie déjà de travailleuses du sexe, donc pas les traditionnelles, pas celles qui sont en situation irrégulière. Enfin voilà, donc déjà, ça c'est bien de le dire. Et, mais oui, ensuite, c'est bien d'avoir un endroit où pouvoir exister en tant que travailleuse du sexe, surtout quand on se crée son personnage sur OnlyFans. Parce que voilà, oui, moi, ma recette, comme tu l'as déjà souligné, c'est quelque chose de vachement intimiste. Souvent, je suis en pyjama, je suis sur mon lit, je ne suis pas maquillée. Et ça crée vraiment ce semblant de proximité avec les fans qui vont me voir d'une façon dont on ne me voit pas sur les autres réseaux sociaux. Donc oui, c'est ça. Ça ouvre aussi à une certaine liberté créative aussi d'avoir cette chambre-là qui là pour le coup est matérielle.
Ouais, c'est on sent vraiment l'imaginaire de la chambre d'hôtel. Enfin, c'est vrai, j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette quoi.
Merci.
Non, je suis abonnée, ça y est et tout. Bertoul, ça évoque quoi pour toi la poudre?
Pour moi, ça évoque quelque chose de d'aérien, d'évanescent, quelque chose qui est mouvant, qui est changeant. Ça évoque quelque chose d'immatériel, aussi de la pose, quelque chose d'insaisissable aussi. Mais de partout. D'omniscient aussi.
Merci infiniment, Bertoul.
Merci à toi, Laurel.
Merci à Bertoul Borebec d'être venu faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.